Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec au sommaire de l'émission votre rendez-vous habituel dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis en débat ce samedi à la fin de la première semaine du déconfinement, une semaine où il a fallu commencer à respecter les nouvelles règles de la vie en commun, la distanciation sociale, les masques, des simples mesures de précaution, de sécurité pour les uns. Et pourtant c'est comme si nous prenions tous conscience que quelque chose de plus c'était en jeu à travers ce qu'on appelle la distanciation sociale, le port du masque. On peut se demander ce que deviendront la poignée de main, la bise, l'accolade, le baiser sous l'époque des gestes barrières. Alors il y a évidemment les règles qu'on nous impose, mais aussi la façon dont on perçoit les autres, hostiles, dangereux quand on les croise dans la rue ou dans les transports. Comment est-ce qu'on peut garder la distance et maintenir le lien? Nous avons perdu l'innocence du contact au profit de la société du maître et demi. La société du maître et demi, c'est ce dont nous allons débattre justement avec celui qui est à l'origine de la formule, l'écrivain et essayiste Pascal Bruckner. Il rédigeait un texte fort dans le magazine Le Point et on a rendez-vous avec lui maintenant dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver, hommes et femmes libres. Vous vivez justement le déconfinement comme une forme de libération, Natacha?
Non, pas vraiment.
Parce non.
Que justement, nous allons parler de tous les sujets que soulève ce déconfinement. Ce n'est pas véritablement une libération, c'est le prolongement de quelque chose et ça nous montre en effet que ces faits-là s'inscrivent dans la durée.
Gilles?
Oui, bah, moi non plus. Ma vie n'a pas fondamentalement changé le 11 mai puisque la Fondation Jean Jaurès est pour l'essentiel en télétravail et donc je continue pour l'essentiel à rester chez moi.
Mais vous n'avez plus à analyser les cahiers du déconfinement que vous avez suivis semaine après semaine pour suivre le moral des Français. Ce seront donc d'autres qui feront le travail. Il faudra peut-être remettre le travail sur le chantier, le métier sur les cahiers de ce déconfinement. On va d'abord écouter la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. C'était hier sur France 2.
Je crois qu'on peut tirer un bilan qui est globalement positif. Les mesures du déconfinement sont globalement très bien respectées. On voit d'ailleurs dans les transports en commun que les Français respectent très largement le port du masque. Nous sommes sur la bonne voie, mais la partie n'est pas encore gagnée. Nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir d'ici les vacances de juillet et d'août, mais nous souhaitons faire en sorte, à la fois pour le secteur du tourisme, mais aussi, je crois, pour tous les Français qui peuvent se permettre de partir en vacances, d'avoir une perspective, une bouffée d'air, d'oxygène, qui permette de se projeter dans un moment que tous attendent impatiemment.
Quel est le mot qu'il faut retenir? Vacances ou effort, Natacha?
Écoutez, je pense que les vacances sont certes un horizon pour beaucoup de Français, mais ce n'est pas le seul. La question de l'effort ne me semble pas résumer la situation. Ce que je dirais, moi, c'est tout simplement qu'il y a, comme lors du confinement, une très grande discipline de la part de beaucoup de Français qui montrent qu'ils sont conscients de ce que signifie ce qui se passe, qu'ils sont conscients que les choses ne sont plus comme elles l'étaient il y a deux mois et demi, trois mois, et que donc il faut changer certains comportements. Moi, j'ai surtout observé, en effet, une sorte de rigueur, alors avec des exceptions, et il en a beaucoup été fait sur ces exceptions, que ce soit d'ailleurs la surmédiatisation de la foule dans le métro sur la ligne 13 lundi matin.
Pourquoi la surmédiatisation?
Retard du métro. Surmédiatisation parce qu'immédiatement il y a eu catastrophisme sur le fait que ça y est, le métro était plein. En fait, non, il y avait un premier métro qui avait 40 minutes de retard. Cela nous a permis quand même d'observer que les gens qui sont obligés de prendre les transports en commun ne le font pas par choix. Ce sont souvent des gens qui sont largement défavorisés, qui habitent loin de l'endroit où ils travaillent et qui ont des horaires qui sont des horaires difficiles. On le savait déjà, mais c'est confirmé par cela. Et là aussi, il y a cette question du choix, tout simplement, des citoyens.
Le choix.
Est-ce que nous sommes... Mais oui, la question du choix, dans le sens où, en effet, toute la façon dont nous pensons l'urbanisation, les transports, est liée à l'idée que, très souvent, les gens auraient le choix. Or, non. ils n'ont pas le choix. Ceux qui prennent leur voiture n'ont pas toujours le choix. Ceux qui prennent les transports en commun n'ont pas toujours le choix. Ils peuvent pas tous prendre un vélo. Il faut avoir conscience de cela et il faut penser les transports et l'urbanisme en fonction de cela, je pense. C'est un des enseignements.
On va justement en parler de ces nouveaux rapports sociaux, de ces nouveaux rapports même amoureux, amicaux, familiaux, dans un instant avec Pascal Bruckner. Mais comment expliquer, Gilles, que déconfinés, les Français sortent finalement assez peu? 65% des Français ne sont pas sortis de chez eux plus souvent que durant le confinement cette semaine.
Ouais, mais écoutez, moi ce que je retiens de ces premiers jours, enfin il y aurait mille et une choses à dire, mais... C'est un paradoxe, c'est que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est ce qu'on dit à leur manière, et Sibeth Ndiaye et Natacha Polony. Et dans l'ensemble, les Français ont le sentiment que ça s'est mal passé. Par rapport aux inquiétudes que l'on pouvait avoir sur les entreprises, sur les transports, sur les écoles, et qu'on avait exprimées ici ces dernières semaines, je trouve que ça s'est plutôt bien passé, précisément parce que on ne passe pas en une nuit de la peur à l'exposition au risque. Ça prend du temps et donc ça explique que les citoyens aient été prudents. J'ajoute que les entreprises ont fait preuve de responsabilité en maintenant beaucoup de télétravail et en organisant parfois des horaires décalés. Donc il y a eu cette maîtrise, il y a eu de la discipline de la part des Français, c'est vrai sur la distanciation, c'est vrai sur les masques, ça finit par nous paraître une évidence, mais on en a trouvé. Et ce qui était un
enfin
précieux sésame. Oui,
enfin,
ce qui
trouver,
était un
acheter.
Précieux sésame, oui, il y a peu de temps, dans peu de temps maintenant deviendra, je pense, un objet de faible valeur. On en a porté, on veut d'ailleurs en porter davantage. Donc, ça s'est bien passé. Mais, et c'est là le paradoxe, dans l'ensemble, les Français ont le sentiment que ça s'est mal passé. Il y a une forme d'auto-dévalorisation collective de notre pays qui est spectaculaire. On l'avait déjà vu, je l'avais évoqué. Pendant le confinement, la France était un des pays les plus disciplinés et pensait être moins discipliné que les autres. Eh bien, c'est confirmé avec le déconfinement. Quand on interroge les Français pour savoir est-ce que vous respectez strictement les recommandations sanitaires, 95% disent oui.
Bon, c'est déclaratif.
Certes. Mais lorsqu'on leur demande, est-ce que vous pensez que vous trouvez que les Français respectent strictement les recommandations sanitaires? On est à 50%.
Ah oui.
C'est un écart qui est absolument dingue. Où est-ce qu'il y a des manifestations contre l'obligation du port du masque? C'est en Allemagne. Où est-ce qu'il y a un sentiment d'indiscipline très fort? C'est en France. Bon, tout ça ne veut pas dire que c'est parfait. Natacha Polony a évoqué la ligne 13. Au-delà du premier métro qui avait du retard, il y a quand même des difficultés qui étaient des difficultés avant et qui a des difficultés maintenant. C'est pas gagné pour les jeunes parce que là où 95% des Français disent « on respecte les recommandations sanitaires », il y en a 50% qui disent « tout à fait ». Et chez les jeunes, on est à 35%. Bon, donc c'est pas gagné, c'est pas parfait.
Oui.
Mais il va falloir attendre le juge de paix. Le juge de paix, il n'est pas maintenant, il n'est pas à 6 jours. Il sera sur le sanitaire quand on aura le R0, le taux de reproduction du virus, et sur l'économique quand on aura l'évolution du taux d'activité.
Natacha, quand vous avez entendu parler des vacances dans la bouche du Premier ministre d'abord et puis dans celle de la porte-parole du gouvernement, vous vous êtes dit enfin une forme de retour à la normale, il y a une petite perspective, une lueur d'espoir. Vous étiez l'une des premières à vous inquiéter de la situation des restaurants par exemple, des secteurs qui concernaient notamment la gastronomie, évidemment, les lieux où on peut se retrouver comme les bars. Là, c'est peut-être l'ébauche de quelque chose qu'on va retrouver.
Il va falloir observer au jour le jour, d'abord parce que, en effet, là où Gilles a tout à fait raison, c'est que on verra exactement dans une semaine ou deux où on en est avec l'évolution du virus. Le déconfinement, il ne se passe pas uniquement cette semaine. Ça va être sur 2-3 semaines avant de voir si l'ensemble des mesures est efficace. Ensuite, il ne suffit pas de parler de vacances. C'est la question est de savoir comment va se passer une reprise dans un secteur économique qui est un secteur dont on nous a expliqué depuis 30 ans que c'était l'avenir de la France, à savoir le tourisme. On allait devenir une grande nation touristique, c'était formidable et ça allait compenser la désindustrialisation. Donc on peut se réjouir d'avoir enfin un horizon pour les restaurants. Malgré tout, le problème du remplissage, des nuitées d'hôtel, de la modification aussi des choix de vacances des Français va être majeur. Pourquoi les Français partaient moins en France ces dernières années et beaucoup plus à l'étranger? Pour des questions de prix, beaucoup. pour des questions de mode et de discours social global.
Enfin, et l'envie de découvrir le monde aussi, on peut aussi voir les choses de manière un peu positive, Natacha.
Non, mais bien sûr, sauf que il faut être mesuré quand on voit le monde. C'est formidable d'aller découvrir le monde. Vous savez comme moi qu'il y a aussi un tourisme de masse qui consiste à n'absolument pas découvrir le monde, mais simplement découvrir une plage qui pourrait être la même que n'importe où ailleurs. Et c'est le tourisme de masse n'a pas que des avantages. Est-ce que là aussi on saura réinventer quelque chose? Est-ce que la façon dont on va prendre des vacances, dont on va les concevoir, dont on va les penser, va être modifiée? Et est-ce que ça va servir, j'allais dire, les intérêts économiques du pays, donc les nôtres à tous? C'est cette question-là aussi qu'il va falloir se poser. J'espère que ça va permettre à des gens de découvrir qu'il y a des merveilles dans ce pays et qu'en plus, ça enrichit tout le monde et que donc, nous y gagnons tous.
Et pour ceux qui connaissent déjà bien le pays, ils pourront peut-être aller en Italie puisque l'Italie vient de décider aujourd'hui de rouvrir ses frontières, notamment aux touristes français. Gilles, encore cette question des vacances et on passe au deuxième sujet du duel.
Oui, écoutez, moi je ne partage pas la petite ironie qui a gagné parfois les réseaux sociaux quand on a reparlé des vacances. Ce que je note, c'est qu'il y a le retour d'une catégorie qui ne s'est pas effacée pendant le confinement, mais qui s'est estompée et qui est le client, le consommateur, et qui a été au centre de l'attention de nos comportements et des médias cette semaine, et dont les décisions du Premier ministre, qui normalement est depuis le début très prudent sur les vacances en disant dès aujourd'hui il n'y aura pas de problème avec les vacances, montre que c'est le retour du client. En même temps, si on veut que le secteur du tourisme puisse survivre avec un plan, je dois dire un effort gouvernemental qui est très important, mais si on veut que le secteur du tourisme puisse survivre, il faut aussi qu'il puisse se préparer. Donc on comprend tout ça, mais ce retour du client, c'est quand même aussi l'événement de cette semaine.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
La lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, c'est mon combat politique et ce sera probablement le combat de toute ma vie. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une importance bien au-delà de ma personne. Il s'agit pour nous toutes et tous de mettre fin à l'impunité que nous constatons sur les réseaux sociaux. C'est un texte riche, ambitieux, novateur que nous allons voter aujourd'hui. Un texte qui porte votre résilience, votre attachement à la liberté d'expression, votre volonté de défendre la souveraineté lorsqu'il s'agit de protéger nos concitoyens. Car n'oublions pas que ce texte, il est avant tout pour les victimes de haine en ligne. Elles l'attendent avec impatience et elles comptent sur vous.
C'était mercredi. Après un an de va-et-vient parlementaire, l'Assemblée nationale adoptait donc définitivement la loi Avia, du nom de Laetitia Avia, la députée LREM, loi contre la haine sur Internet, et un texte de loi controversé qui oblige les plateformes numériques à retirer sous 24 heures tout contenu haineux, sous peine d'amende. C'est le premier texte au menu parlementaire qui n'a pas de rapport avec le coronavirus depuis le début de l'épidémie en France, Natacha, et c'est un texte important.
Écoutez, l'extrait que l'on vient de passer est un florilège absolument hilarant. C'est-à-dire liberté d'expression, souveraineté numérique, c'est exactement ce que ce texte piétine. Et il est assez significatif que le premier texte n'ayant pas trait au coronavirus qui passe au Parlement soit celui-ci. Je pense que ça nous raconte beaucoup de ce qu'est politiquement le macronisme, en tout cas la macronisme, qui n'est peut-être pas exactement la même chose. Enfin, voilà. Parce que pour ce qui est de la liberté d'expression, la confier à des plateformes qui, évidemment, sont à l'étranger, donc c'est une façon de nier la souveraineté et surtout le rôle du juge français, puisque ce sont des plateformes, donc des intérêts privés qui vont décider de cela, on le remet entre leurs mains. C'est profondément dangereux, je pense. Et un simple exemple, nous nous souvenons, ça paraît très très loin, mais de l'affaire Mila, il y a quelques mois. Oui. Dans cette affaire Mila, est-ce que la vidéo de la jeune Mila aurait été considérée comme de la haine en ligne? Je rappelle que dans la première mouture de la loi Avia, dans le préambule, était cité non pas seulement l'antisémitisme, l'homophobie, etc., mais aussi l'islamophobie. Qu'est-ce que c'est l'islamophobie? Qui le définit? Si c'est une plateforme comme Twitter ou Facebook, je m'inquiète énormément. D'autant que ensuite, donc il y a le rôle du juge qui est nié, et derrière il y a la question tout simplement des moyens qu'on se donne. Pourquoi demande-t-on à des plateformes de se donner les moyens? Ben, dans l'affaire Mila, je ne sais pas actuellement où cela en est, mais un mois après l'affaire, il n'y avait aucune arrestation des gens qui l'avaient menacée de mort.
Il faut c'est rappeler que si c'est l'histoire de cette lycéenne, de cette jeune fille de 16 ans qui avait dû être déscolarisée après avoir reçu des menaces de mort pour des propos qu'elle avait tenus sur l'islam au cours d'un live sur Instagram. Et elle a été donc totalement bouleversée, sa vie a été bouleversée, son quotidien a été bouleversé. Elle a dû changer de lycée puisque le lycée où elle suivait sa scolarité dans l'Isère ne pouvait plus l'accueillir. Mais quand on voit dans la loi Avia la responsabilité mise renvoyée au GAFA, pour le dire très rapidement, à Facebook, à Google, est-ce que c'est pas aussi une manière d'être enfin efficace, considérant que justement les juges en France ont le plus grand mal à faire respecter les lois sur les contenus haineux, l'antisémitisme, etc.
Mais encore une fois, je vais laisser Gilles s'exprimer, mais je pense que ce ne sont pas les juges qui ne sont pas efficaces, c'est une question de moyens que l'on se donne.
Bon, alors je partage pas totalement ce que vient de dire Natacha. Et ça me réjouit parce que ça fait un débat. Il y a la question du moment, de l'urgence, ça me paraît secondaire. Il y a la question de l'auteur de la proposition de loi, j'en dis quand même un mot, puisque Laetitia Avia est mise en cause par plusieurs anciens collaborateurs pour des motifs qui sont sérieux. C'est pas l'objet du débat, mais je crois que c'est impossible de faire comme si ça existait pas, et il faudra être attentif au développement de cette affaire. Et puis, il y a l'essentiel qui est le fond. Est-ce qu'il y a un problème? Là, je pense que la réponse est clairement oui. Il y a une promesse des réseaux sociaux qui a été trahie, qui sont pour partie un espace de liberté, de discussion, de connaissance, mais qui sont aussi, et de plus en plus, un déversoir de haine, de violence et de meute. Le droit n'est pas inexistant, contrairement à ce que l'on dit. L'Internet n'est pas un espace de non-droit, c'est-à-dire que les propos que vous tenez peuvent être poursuivi, y compris lorsque vous le faites de manière anonyme. En revanche, le droit est inadapté, en ce sens que le rythme du droit, celui que vous évoquez, Natacha, c'est le rythme de mois ou d'années, quand le rythme des réseaux sociaux, c'est celui des heures ou des jours. Et d'où cette loi, c'est-à-dire la volonté de responsabiliser les plateformes qui ne sont pas considérées réellement comme des médias. Vous, en tant que média, eh bien, vous avez la responsabilité de ce que vous publiez. C'est pas exactement ça pour les plateformes, mais c'est un peu ça au sens où elles ne peuvent pas publier n'importe quoi. Alors après, il y a plusieurs critiques qui ont été faites. La critique que vous portez, c'est une critique en dangerosité pour les libertés et pour la liberté d'expression. Ça peut être le cas en considérant que le principe même d'une régulation porte atteinte aux libertés. Il y a un certain nombre de défenseurs, les plus anciens du net, les plus libéraux, libertaires qui sont sur cette ligne-là. Ça a une forme de cohérence, mais le problème, c'est qu'on est impuissant face aux dérives que j'évoquais. Et après, il y a les critiques, celles que vous faites, sur les modalités de la loi. La mise à l'écart du juge, elle n'est pas, c'est pas vraiment une mise à l'écart, au sens où les juges, à la fin, c'est à eux de dire si la décision de retirer un texte a été conforme à la loi. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que, en l'espèce, ce sont uniquement les contenus manifestement illicites, grossièrement illicites, qui sont
visés. Ceux qui auront été signalés.
Ceux qui auront été signalés. Là, je dois dire que il y a quand même un petit problème, au sens où ce sont les internautes qui signalent. Oui. Ou la police pour le terrorisme. Donc, il y a cette première critique en dangerosité. Moi, je ne la partage à ce stade pas complètement. Mais il y a une deuxième critique qui est, et je reprends sur ce que disait Laetitia Avia dans l'extrait que vous avez passé, mettre fin à l'impunité sur les réseaux sociaux, qui est une critique en inutilité ou en inefficacité. Pour le terrorisme, déjà, les plateformes, Facebook notamment, ont des dispositifs de filtrage d'une très grande rapidité. Et donc, pour le terrorisme, ça existe largement. Pour la haine, le problème est que les dispositifs de la loi sont faciles à contourner. Il y a tout un langage codé de la fachosphère pour parler des juifs, pour parler des musulmans de manière euphémisée qui font qu'on ne prendra pas les plus méchants, mais on prendra les plus bêtes. C'est déjà pas mal, ouais, c'est insuffisant.
Natacha ?
Oui, justement, les contournements, nous sommes bien d'accord. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est aussi le fait que tout cela donne le pouvoir, finalement, à des groupes d'intérêts, des pressions, d'une part, de l'opinion. Et dans la mesure où, vous l'avez dit, les internautes, le poids des internautes va jouer énormément. C'est-à-dire qu'en gros, je reprends l'exemple de Mila parce qu'il est significatif. Quand vous avez cette fille qui dit des grossièretés sur une religion, il y a immédiatement une levée de boucliers et la question se poserait tout de suite de la part justement des GAFAM de savoir s'ils doivent retirer ce contenu. Est-ce que ce contenu...
C'était une vidéo en direct, c'est un live sur Instagram, donc impossible, oui. Comme quand on est en direct à la radio ou à la télévision, d'arrêter ce qui est en train d'être dit. On intervient toujours trop tard.
Je suis d'accord, mais je prends un exemple d'un contenu comme celui-là, un contenu qui dirait tout le mal qu'il pense des religions de façon virulente, voire grossière, puisque c'était le cas en l'occurrence. Et je me pose la question, est-ce que ce que nous considérons en France comme un droit lié à la liberté d'expression, le fait en effet d'être virulent, voire grossier contre les religions quand on n'attaque pas les personnes et les croyants, est-ce que cela, Twitter et Facebook considèrent que c'est possible? Et s'ils ont une pression de certains internautes, est-ce que nous n'allons pas avoir, justement, selon l'air du temps, des tabous qui vont se réinstaller sur certains points qui pourtant relèvent de l'essence même de la liberté des individus? Voilà, je pense que tout cela est à manier avec beaucoup, beaucoup de prudence et que ce n'est pas le cas dans cette loi.
Un mot, Gilles, avant d'en trouver Pascal Bruckner.
Oui, un mot. Je pense que Natacha a raison. Il faut être d'une extrême vigilance sur la liberté d'expression. Les GAFAM ont déjà une responsabilité et un pouvoir de régulation. J'évoquais tout à l'heure les dispositifs qu'ils ont pris pour ne pas diffuser de propos ou d'appels au terrorisme. En Allemagne, une loi assez proche de celle qui vient d'être adoptée a été adoptée il y a presque 2 ans. Un premier bilan va être fait à la fin de l'année. À ce stade, il semble que 15% seulement de tous les signalements aient donné lieu à un retrait. Et donc, bon, je crois que ça reste relativement maîtrisé, mais il faut attendre d'avoir un bilan total.
Le débat continue, le grand face-à-face continue avec Pascal Bruckner.
France Inter, le grand face-à-face. Le débat.
Et une émission donc à la fin de la première semaine de déconfinement, celle où il a fallu commencer à apprendre à respecter les nouvelles règles de la vie en commun, la distanciation sociale, les masques, etc. Et on a tous pris conscience qu'il y avait plus que des gestes barrières, plus que des mesures sanitaires, quelque chose comme notre rapport aux autres qui était profondément bouleversé. Comment est-ce qu'on peut garder la distance, faire maintenir le lien, faire société? Nous avons perdu l'innocence du contact au profit de la société du maître et demi. La formule de cette société du maître et demi, celui qui en est l'auteur et l'écrivain et essayiste, Pascal Bruckner, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour Ali Badou.
Société du maître et demi, la formule est forte. Pourquoi est-ce que les gestes barrières, la distanciation sociale ou physique, on va parler de ces mots dans un instant et de l'importance de ces expressions, ça dit plus que de simples mesures de précaution?
Ça dit plus parce que ça rentre dans une tradition de contact et d'une culture tactile qui était celle de la France, où les gens s'embrassent, où les gens se prennent par les bras, se serrent les uns contre les autres. Et tout d'un coup, au nom de la prudence, on nous demande d'arrêter ces réflexes et de nous tenir loin de notre prochain, y compris de nos enfants, de nos parents, de notre épouse, de notre conjoint. Et c'est là où il y a presque un changement presque anthropologique, si j'osais les gros mots un peu pédants, mais c'est vrai que quelque chose est en train de se transformer, que nous expérimentons depuis maintenant 2 mois.
Les proches ne sont plus si proches. C'est comme si le virus avait fait éclater tout ça en nous obligeant à nous tenir à distance autant que possible. Quand vous dites que la société du mètre et demi est en train de s'imposer, on avait déjà la défiance dans nos têtes, le regard sur l'autre. On décrivait la société française comme une société archipélisée, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet. Est-ce que vous n'idéalisez pas cette société d'avant le coronavirus?
Oui, bien sûr. Mais auparavant, on se méfiait les uns des autres, mais pour des raisons politiques ou idéologiques, ou pour des raisons d'apparence. Maintenant, c'est la simple poignée de main est devenue hors la loi. C'est ça qui est étonnant. Et avec le Covid, on réconcilie 2 personnages en chacun de nous. C'est le paranoïaque et l'hypochondriaque. Donc, le paranoïaque se méfie des autres. Et puis l'hypochondriaque se méfie de lui-même. Donc on se dit, si je touche les autres, je vais me réveiller en pleine nuit avec de la fièvre, je vais tousser. Et d'ailleurs, il paraît que beaucoup de gens ont eu des symptômes mimétiques. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont cru avoir le virus sans l'avoir, parce que forcément, nous tombons malades par ouï-dire. À force de voir des images horribles à la télévision, nous finissons par les incorporer et par croire que ça va nous arriver. Donc, le simple déplacement dans la rue, aller à l'épicerie, fait que nous nous regardons les uns les autres avec une suspicion énorme et parfois avec une certaine hostilité quand les gens, surtout les jeunes, ou même certaines personnes âgées ne respectent pas la distance et viennent
et on va en parler sur votre nez. On va en parler justement, Pascal Bruckner, parce que c'est assez passionnant. Vous écrivez, et je vais donner la parole à Natacha Polony tout de suite, mais vous écrivez que partager un café, dîner entre amis, donner une fête dans ce nouveau monde équivaudra à danser au-dessus de l'abîme. Et ce qui est assez amusant, c'est la formule que vous employez en disant que l'épreuve que nous traversons nous aura révélé à quel point nous étions heureux sans le savoir, à quel point l'ordinaire était extraordinaire. Natacha, vous partagez l'analyse et cette nostalgie pour le monde, non pas d'avant, mais d'il y a juste 2 mois?
Alors déjà, je me permettrai quand même un petit élément d'optimisme, c'est le fait que nous ne savons pas comment va évoluer cette épidémie. Les épidémies disparaissent au bout d'un moment, soit qu'on trouve un vaccin, soit qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Nous verrons bien ce qu'il adviendra de celle-là, mais le monde que nous aimions n'est pas totalement englouti. En revanche, il y a quelque chose de profondément perturbant et intéressant, en effet, dans ce jeu des masques que nous découvrons. Et c'est le fait que nous avions pris l'habitude de ne même plus nous regarder. Or, nous sommes obligés désormais de communiquer par le regard. Et on voit que ça va prendre du temps de se mettre à regarder de nouveau les gens qu'on croise dans la rue. Les gens, je sais que...
Il faut être physionomiste, puisque avec un masque, on est tous identiques.
Oui, c'est déjà compliqué.
On est interchangeable, on ne se reconnaît plus.
C'est déjà compliqué, mais... Moi, ce que j'adore dans le métro, c'est de regarder le visage des gens. Et souvent, les regards se croisent. Et les gens n'aiment pas qu'on les regarde, qu'on les observe. Il y a quelque chose comme une agression par le regard. Donc là, s'il n'y a plus que le regard, il n'y a plus rien. Et nous sommes dans une société qui a tendance à effacer les sens de la proximité, qui valorise la vue et l'ouïe. En revanche, tout ce qui est de la proximité, l'odorat, le toucher, est totalement... atrophié déjà en général, et même dans les sociétés dont parle Pascal Bruckner dans son texte, ces sociétés méditerranéennes, latines, qui sont quand même un petit peu moins hygiénistes que certaines sociétés du Nord ou certaines sociétés anglo-saxonnes. Or, tout cela va devoir être réinventé, et le désir passe par la proximité. Donc je pense qu'il y a quelque chose de, oui, bien sûr, de profondément perturbant, et ça nous impose de réfléchir à ce qu'est le sens du visage et de la communication avec le visage de l'autre.
Pascal Bruckner.
Je pense que d'ailleurs, je le laisse parler de cela, mais ça me semble essentiel.
Oui, il n'y a plus de visage, les visages ont disparu, c'est-à-dire que maintenant les grandes villes sont des collections de mufles de toutes les couleurs, au-dessus desquels on voit des yeux et des cheveux, et on essaye de reconnaître, de distinguer qui est comment. Et alors des gens
mais
viennent
plus de délit de sale gueule. Plus compliqué d'être raciste, plus compliqué de prêter des intentions à des personnes sur lesquelles on se trompe complètement. Je pousse le paradoxe, mais est-ce qu'au fond, une société masquée, c'est pas une société égalitaire ?
Oui, on est également démuni face à autrui. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas très agréable non plus. Mais dans une société qui est démasquée, dans tous les sens du terme, les regards sont très ambigus. Aux États-Unis, par exemple, si vous fixez une femme dans la rue, elle peut vous faire des remontrances parce que c'est vu comme une agression. C'est ce que disait tout à l'heure Natacha Polony. Le regard est vu comme une hostilité, une volonté de se saisir de la personne. Mais maintenant, c'est tout ce qui nous reste. Et donc, on essaye de recomposer le visage à partir de ce qu'on voit, c'est-à-dire les yeux, le front, les cheveux. Et on se demande qui est cette personne, à quoi ressemble-t-elle.
Est-ce qu'elle sourit ou est-ce qu'elle fait la gueule, pour employer une expression triviale ?
Est-ce qu'elle fait la gueule ou est-ce... De temps en temps, on voit des sourires quand même. L'aspect positif, parce qu'effectivement, il ne faut pas désespérer du monde qui vient ici par miracle. Le Covid disparaît pendant l'été, selon les prédictions du professeur Raoult, ce serait les anciens réflexes vont revenir instantanément, parce que c'est aussi la vie qui triomphe de la peur. Mais
Justement, est-ce que c'est si certain ? On va en parler justement, parce que Gilles, pour vous, ça va laisser des traces dans les têtes et ça va profondément modifier nos comportements, même après l'épidémie.
Oui, mais ça ne veut pas dire que on ne soit pas encore là on n'est plus dans le avant, ça c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un après et que cet après, eh bien, je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus. Il pourra peut-être aussi être mieux qu'avant. Mais je voudrais revenir non pas sur les images, mais sur les mots. Les mots que vous utilisez pour parler du Covid, parce que oui, c'était mieux avant quand on pouvait s'embrasser, s'enlacer, s'approcher, ça, il n'y a pas le moindre doute. Le confinement a provoqué un réagencement de nos émotions avec, on l'a beaucoup dit, une irruption de la peur, un réagencement de nos relations. Ce qui a été à l'épreuve, c'est l'ultra-proximité, ce qui est à l'épreuve, c'est-à-dire à la fois celle des couples qui ont partagé le confinement et celle de l'inconnu qu'on croise au coin de la rue. Ce que je voudrais savoir, c'est...
Ou dans un concert ou un match.
Doit utiliser... Bah, pour l'instant, il y a ni de concert ni de match. Pour l'instant,
c'est
plutôt au coin de la rue. Ce que je voudrais savoir, c'est quels mots on utilise pour parler du Covid entre le paranoïaque et l'hypochondriaque que vous évoquiez, Pascal Bochner. Et est-ce que vous prenez pas le risque d'entretenir, malgré vous, cette méfiance que vous regrettez? Ali, tout à l'heure, citait la formule que vous utilisiez pour un dîner entre amis, c'est danser au-dessus de l'abîme. Quand vous parlez des transports en commun, c'est le risque de la roulette russe. On est à la merci d'un peloton d'exécution. À chaque fois, je vous cite. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hyperbole de la dramatisation? Et est-ce qu'on ne pourrait pas être vigilant dans les actes et un peu plus mesuré dans les mots, ce qui permettrait peut-être d'éviter un peu cette société de la méfiance que vous redoutez?
Pascal Bruckner.
Oui, c'est-à-dire que c'est la nouveauté du Covid, et c'est en ça qu'il est absolument surprenant pour nous, c'est que on ne peut pas le localiser. La grande différence avec le SIDA, par exemple, qui a été pour la génération des années 90, le choc absolu, c'est que le SIDA a été cantonné à un certain nombre de gestes. C'était des gestes de l'érotisme, et on savait qu'on pouvait s'en protéger, soit en restant fidèle, soit en se couvrant, si j'ose dire. Avec le Covid, la nouveauté, et c'est là où, effectivement, on oscille entre la désinvolture et la panique. On ne sait pas comment l'attraper. Moi, beaucoup de mes amis l'ont attrapé en faisant des courses. Donc, est-ce que c'est en passant à côté d'un jogger qui vous a soufflé au visage parce qu'il était essoufflé? Est-ce que c'est au supermarché? Et donc, le côté invisible de la chose est
aléatoire.
Et totalement aléatoire. Fait que évidemment l'inquiétude en est renforcée parce qu'on n'a pas les gestes barrières. C'est très bien, effectivement, c'est indispensable, surtout pour des gens de ma génération. Enfin, des gens à partir de 50 ans doivent faire très attention, mais il n'y a pas de garantie, alors que avec le SIDA par exemple, l'abstention était une sorte de garantie totale. Là, on était sûr de ne pas tomber malade.
L'abstinence, vous voulez dire.
Avec le Covid, c'est toute la vie quotidienne du lever au coucher qui risque d'être atteinte. Et c'est en cela qu'on est évidemment plus inquiet que... Alors peut-être à tort, parce que si ça se dissipe, on se dira on n'aurait pas dû avoir aussi peur. Mais on oscille entre la panique des prescriptions officielles et puis les esprits forts qui disent tout ça c'est faux, le confinement n'a servi à rien, regardez, d'autres sociétés n'ont pas confiné, elles ont aussi bien réussi que nous. Mais je dois dire qu'entre ces options, mon cœur balance. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ces mots assez forts.
Natacha Polony.
Mais je pense que je rejoins en partie Gilles, en tout cas sur une chose, c'est que je crois que l'essentiel est de cultiver, ce qui, hélas, est très rare dans notre société, la juste mesure. C'est-à-dire que l'excès de panique, tout comme l'excès, en effet, de négligence, me semble dommageable, et c'est hélas, ce qui est trop souvent mis en œuvre dans l'ensemble, à la fois dans la façon dont les gens perçoivent les discours et dans les discours qui sont tenus. Et de fait, non, il ne s'agit pas de bouleverser l'ensemble de sa vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'avoir peur du moindre dîner entre amis. Et je dis
non, mais Natacha, mais Pascal Bruckner, vous devriez être d'accord avec lui quand il dit qu'il faudra songer à vider les grandes villes saturées, qu'il faudra substituer. Le tourisme, non pas de masse, mais le tourisme dans des villes comme Venise, comme Barcelone, qui sont déjà saturées et qu'on ne peut plus visiter.
Alors oui, ça, attendez, j'y viens tout de suite, je termine juste 30 secondes sur ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut cultiver une politesse des gestes barrières. C'est-à-dire qu'il y a une manière raisonnable d'appliquer tout cela, qui est de ne pas regarder avec hostilité les autres, mais de discrètement pratiquer une sorte de distance, mais qui n'empêche pas justement la communication. C'est quelque chose que nous allons apprendre, mais la notion de politesse des gestes barrières me semble intéressante à réfléchir. Et en effet, il y a un problème de saturation de l'espace. Il y a déjà des années que je me dis que le luxe immense des décennies à venir sera la solitude, en tout cas non pas la solitude, c'est-à-dire le fait d'être coupé de ce qu'on aime, mais le fait d'avoir de l'espace et d'avoir du temps. Les deux données absolument essentielles. Et bien sûr que si cette crise nous apprend que l'entassement, le tourisme de masse que nous avons tous vu en effet à Venise avec ces gens tellement agglutinés que la ville disparaît, tout cela, bien sûr, peut être réfléchi. Mais c'est un projet politique important.
Mais c'est peut-être aussi un projet politique d'ailleurs qu'a Pascal Bruckner dans la tête. Finalement, tout le monde devient réac, Pascal Bruckner. Tout le monde a la nostalgie du monde d'avant. Tout le monde se dit c'était mieux avant.
Non, mais être nostalgique, ça n'est pas être réac. C'est pas une...
Non, mais je le dis en souriant, mais au sens littéral.
Effectivement, on était, la vie était plus douce et plus décontractée avant. Mais vous savez, juste deux petites choses. Autrefois, je parle dans l'après-guerre, que lorsque les hommes croisaient une connaissance ou une femme, ils enlevaient leur chapeau. Là, lorsque vous croisez une personne masquée, vous avez l'impression qu'elle vous sourit. Très souvent, on baisse le masque pour se faire reconnaître, puis on le remet. Donc, c'est une manière, en quelque sorte...
Et le geste ne sert plus à rien.
Parce qu'on se crache pas forcément au visage, mais enfin, c'est simplement pour dire, voilà la personne que je suis, et on se connaît, ce qui est une manière, évidemment, délicate de s'aborder. Mais le risque avec le luxe extrême de précaution, c'est de passer de la prudence la plus hystérique à l'imprudence la plus débridée. C'est-à-dire que les gens se lâchent après s'être contraints pendant assez longtemps. C'est un peu ça qui risque de se passer, surtout chez les populations les plus jeunes, qui elles suivent beaucoup moins les gestes barrières que nous, se touchent, attrapent, s'embrassent, rigolent.
Vive!
Et on les regarde avec évidemment une certaine envie en se disant vraiment c'est un double affront. Et donc, À part ça, pour parler de la densité des villes, moi je parlais surtout de Paris. C'est vrai que jusqu'au mois à la fin février, Paris est une ville qui est en permanence saturée. Je prends le métro tous les jours. On suffoque à part quelques heures qui ne sont pas des heures de grande affluence. Le bus, c'est pareil. On ne peut pas recommencer de la même façon. Si quelque chose doit changer, s'il doit y avoir quelque chose comme un monde d'après, c'est vraiment à réfléchir, à mettre des quotas de touristes pour venir à Paris, parce qu'on ne peut plus
des quotas de touristes pour venir à Paris.
Oui, je pense que la mairie de Paris va y être obligée, et de la même façon, il va falloir qu'on réfléchisse sur la pertinence de maintenir ou non les Jeux Olympiques en 2024. Est-ce que c'est pas une folie à la fois financière, humaine?
Ça dépend du nombre de médailles qu'on remporte à la fin des JO.
Oui, mais est-ce que Paris a besoin de Jeux Olympiques? Honnêtement, là, c'est une ville qui se défend par elle-même. Si c'est Londres, bon, Londres, c'est pas non plus une ville d'une très grande beauté, donc c'est pas bien grave qu'on ait défiguré cette ville par des tours. Mais franchement, moi, je suis hostile depuis le départ à ces Jeux Olympiques, et j'ai l'impression que là, on a trouvé une raison majeure de ne pas entasser 10 millions de gens dans cette ville qui a quand même une superficie très réduite. C'est petit, Paris, hein. C'est pas grand. C'est 12 kilomètres du nord-sud, 12 ou 10 nord-sud-est-ouest.
Et l'une des villes les plus denses au monde.
Les plus denses du monde. Et vous n'êtes jamais seul à Paris. Natacha Polony le disait tout à l'heure. Il y a toujours du monde partout. Les trottoirs sont pleins, sans compter les animaux, les chiens, etc.
Donc. Ah, en fait, vous êtes nostalgique du confinement. Même pas du monde d'avant, mais de la période que nous avons vécue où les rues étaient totalement désertes.
C'était triste, mais je pense qu'on peut trouver un bon étiage des foules sans revenir à la compacité. Le fait que quand vous prenez le métro, c'est quand même, il y a des moments, c'est suffocant. Et ça, c'était avant le Covid. Alors maintenant, j'imagine que les gens doivent être encore plus paniqués ou plus anxieux, en tout cas. Voilà, c'est peut-être le moment de réfléchir à ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire venir 10 ou 12 millions de touristes qui vont se photographier devant la Tour Eiffel ou Notre-Dame? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est, voilà, pourquoi ne pas réfléchir un petit peu à tous ces phénomènes, le tourisme étant à la fois la pire et la meilleure des choses dans le monde entier?
Gilles Finkelstein.
Bon, sur le tourisme, qu'il y ait une réflexion à mener sur sa régulation, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels ça doit être fait de manière extrêmement urgente, pour des raisons environnementales, peut-être bien avant Paris. Pour les JO, à la différence de Pascal Breutner, j'y suis favorable, mais aussi pour une autre raison, c'est qu'il n'y a pas que Paris. Il y a aussi Paris et sa banlieue, et dans le département dans lequel je vis, qui est à la fois le département le plus jeune et le plus pauvre, qui est la Seine-Saint-Denis. Les Jeux Olympiques vont être un levier de transformation de ce département absolument considérable. Mais la question que je voudrais vous poser, Pascal Bruckner, elle est sur les personnes âgées, qui était l'objet de votre dernier essai, Une brève éternité, dans lequel vous parliez de cette forme d'ambivalence du vieillissement, qui était à la fois, pour vous reprendre, un cadeau, mais un cadeau ambigu, où on hésitait entre se retirer dans la sérénité ou intensifier les jouissances qui restent. Cette crise du Covid a montré, je crois, cette ambivalence des personnes âgées, qui étaient à la fois les plus fragiles. On a vu que l'âge était le premier critère de risque, mais on a vu aussi la vitalité, les débats qu'il y a eu au moment de la perspective d'un confinement, d'une poursuite du confinement pour les plus de 65 ou pour les plus de 70 ans. Et donc, je voudrais savoir, pour vous, qu'est-ce qui a changé, à la fois dans votre propre regard sur le vieillissement et dans le regard des Français sur le vieillissement à l'issue de cette crise?
Pascal Bruckner.
Ah ben ça, oui, c'est une très bonne question, Gilles Finkelstein. Je vous remercie parce que les deux mois qui sont passés ont manifesté une tendance qui est une tendance en fait très archaïque de toutes les sociétés, c'est-à-dire à se débarrasser des inutiles. Et on a vu des philosophes humanistes nous expliquer qu'au fond le Covid ça n'était pas grave, qu'il y avait bien pire que le Covid, il y avait la faim dans le monde, il y avait le cancer, il y avait toutes sortes de maladies qu'il fallait traiter d'abord, et que le Covid n'était pas grave parce qu'il concernait essentiellement, et c'est vrai, des gens de plus de 75-80 ans, puisque vous savez très bien que les gens qui meurent sont des gens âgés. Et l'hécatombe dans les EHPAD n'a fait qu'anticiper un mouvement qui se serait produit de toutes les façons. Et alors moi, ça m'a choqué, pas simplement parce que j'ai l'âge que j'ai, mais ça m'a choqué parce qu'au fond, on voit bien que dans une crise gravissime comme celle que nous traversons, le petit vernis de civilisation qui fait qu'on respecte les aînés et qu'au fond, on souhaite les garder auprès de nous le plus longtemps possible, ce petit vernis a complètement craqué. Et on est revenu à un phénomène connu dans l'histoire de la philosophie, c'est l'utilitarisme, à savoir quels sont les gens utiles dans la société et les gens dont on peut se débarrasser sans frais. C'est la fameuse métaphore de la barque prise en pleine tempête, et pour que les passagers survivent, il faut en jeter un, puis deux, et donc on tire au sort celui dont la disparition permettra de sauver l'ensemble. Mais je trouve que c'est un raisonnement qui est à la fois choquant sur le plan de la morale et médicalement assez faux, parce que ça n'est pas quand on se sera débarrassé de toutes les personnes âgées que les traitements seront meilleurs pour les jeunes générations.
Mais quand on imagine, Pascal, oui, Bruckner, la perspective d'un reconfinement différencié par âge, si par exemple on devait se reconfiner pour faire face à la deuxième vague, il y a des scénarios dans lesquels on enfermerait chez eux ou dans les EHPAD ou ailleurs, en tout cas les personnes de plus de 65 ou de 70 ans, est-ce que vous trouveriez ça révoltant ou est-ce que ça pourrait finalement être une mesure de bon sens?
Non, mais tout dépend de la manière dont on la présente. Si on dit aux gens, vous avez le choix, effectivement, il serait pour vous plus prudent de rester chez vous que de sortir dans la rue, je pense que spontanément, les gens de cette génération vont rester chez eux, parce qu'ils savent qu'en réalité, c'est leur propre peau qu'ils sont en train de jouer, c'est leur propre vie. Ce qui était choquant, c'était la manière en quelque sorte autoritaire de dire, au-delà d'une certaine limite, tous les hommes et les femmes seront en quelque sorte maintenus chez eux. Donc c'était plutôt le style de l'intervention que la qualité du propos. Oui, parce que c'est vrai, tout évidemment, on prend plus de risques en sortant à partir d'un certain âge qu'en restant chez soi. Mais je vois que la même société qui s'enorgueillissait, il y a encore 6 mois d'avoir une espérance de vie exceptionnelle, 85 pour les femmes, 79,5 pour les hommes, cette même société, tout d'un coup, dit, après tout, si on perd une génération d'aînés, ça n'est pas si grave. Donc je dis simplement, c'est un constat tout bête, les acquis de la civilisation tombe très vite dès lors qu'un danger majeur semble guetter la société. Mmh. Ça n'est pas parce qu'on soigne le Covid-19 qu'on soignera moins bien d'autres maladies. Ça ne devrait pas être antinomique. Et oui, donc, je trouve toujours dommage qu'on oppose les générations.
Natacha Polony.
J'entends dans ce que vous dites, Pascal Bruckner, beaucoup de paradoxes. Vous parliez tout à l'heure de la saturation de Paris. Paris a toujours été une ville saturée. Certes, ce n'étaient pas les touristes qui étaient là, mais ça a toujours été une ville grouillante. Mais je veux bien entendre qu'en effet, le tourisme de masse, et là je vous rejoins, est absolument parfois consternant et en tout cas inquiétant. Mais justement, vous faites l'éloge donc d'une sorte de vie plus ralentie, où l'on respire mieux. Mais vous avez écrit, il y a quelques années, un livre au vitriol contre l'écologie que vous disiez punitive et que vous terminiez d'ailleurs par une sorte de, un très ironique évidemment, éloge du 4x4 et de votre droit à jouir de votre 4x4. Or, il me semble qu'une pensée écologique est justement celle qui permettrait de vous donner le plaisir de la jouissance du temps long, de l'espace, la possibilité de respirer, une remise en cause de ce tourisme de masse qui est une aberration écologique. Donc, n'êtes-vous pas en train de prendre en compte une pensée, on va dire, écologique, non pas punitive, parce que ce n'est pas punitif, mais qui tout simplement réfléchirait à une façon raisonnable d'organiser la vie humaine dans son environnement.
Pascal Bruckner.
Alors, non, alors Natacha Polony, là, je dois rectifier, J'ai effectivement écrit un livre, non pas contre l'écologie, mais contre le catastrophisme, ce qui n'est pas la même chose. Le catastrophisme est une branche de l'écologie et qui, à mon avis, pervertit le message originel. Et puis, je n'ai pas terminé ce livre. Alors là, je vous le dis, je n'ai pas terminé par un éloge du 4x4. Je n'ai pas de 4x4, je n'ai pas de voiture, je ne conduis pas.
Je me souviens de cette phrase, c'est pour ça. Je me souvenais de cette phrase, j'irai la relire précisément, mais c'est un souvenir que j'ai.
Je n'utilise que les transports en commun et mes jambes. Je n'ai pas dit que vous disiez avoir un 4x4.
Non, mais sans revenir au règne du 4x4.
C'est une phrase sur le droit à jouir de son 4x4.
Ah ben, s'il y a des gens qui veulent avoir des 4x4, peut-être. Mais en tout cas, non, moi je pense que...
Non, mais ce qui est intéressant d'ailleurs dans le titre, c'est que vous parliez du fanatisme de l'apocalypse et qu'il y a eu des moments pendant cette crise où effectivement ces schémas, cette idée de fin du monde a semblé s'imposer et semblé revenir dans nos imaginaires.
Oui, oui, c'est la fameuse phrase. Ben, si vous voulez, quand arrive une catastrophe, les humains ont spontanément tendance à penser qu'ils payent pour un péché qu'ils ont commis. Et c'est la fameuse phrase de Nicolas Hulot, qui ne me paraît pas très raisonnable, selon lequel c'est l'ultimatum de la nature. Je crois que la nature ne parle pas et qu'elle ne nous a pas adressé via l'ancien ministre de l'écologie un ultimatum en disant maintenant...
Non, mais via Greta Thunberg, je le dis en souriant parce qu'elle a aussi votre affection. Mais c'est vrai qu'on l'entend moins. Gilles Finkelstein.
Oui, je trouve ce qui est intéressant dans votre texte, dans votre propos, c'est un regard sur notre civilisation, à la fois sur son état, sur son avenir. Je partage à 100% ce que vous avez dit sur la critique d'une logique utilitariste de cette crise, et c'est précisément la critique que je faisais à Jean Quatremer la semaine dernière, qui était notre invité. En revanche, je suis pas sûr que le vernis de notre civilisation ait tant craqué que cela, et je suis moins pessimiste que vous, parce que si le confinement a été si bien respecté, et s'il l'a été y compris par les jeunes, c'est précisément parce qu'il y avait une forme de solidarité intergénérationnelle, et donc je trouve que le tableau n'est pas si sombre que ça. Et c'est en fait une question que je voudrais vous poser de manière plus large. Cette idée du « c'était mieux avant », là, on est dans un moment dont on ne sait pas combien de temps il va durer entre le avant et, on l'espère, un après. Dans cette crise, il y a eu aussi une autre hiérarchie sociale dont on a vu l'utilité d'un certain nombre de métiers. On a vu la nécessité d'un État qui soit davantage un État de temps long, un État d'anticipation. On a découvert chez les Français des réserves de solidarité, d'inventivité incroyables. Donc, je ne crois pas au lendemain qui chante, comme vous le savez. Je sous-estime en rien l'ampleur de la crise économique et sociale qui vient. Mais est-ce que cette histoire que c'était mieux avant, est-ce que ça vous semble inéluctable? Est-ce que c'est insensé d'espérer que ça pourrait être mieux après?
Pascal Bruckner.
Non, mais on peut dire que Jean-Yves Le Drian, le monde d'après, ce sera le monde d'avant pire. Mais ça, effectivement, vous avez raison.
C'est la phrase la plus pessimiste qu'on ait prononcée pendant cette crise.
Oui, et Houellebecq l'a reprise à France Inter, d'ailleurs, dans sa lettre du matin. Oui. Mais je ne suis pas certain. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Et je crois que, et là, je rejoindrai ce que disait tout à l'heure Natacha Polony, je pense qu'on peut raisonnablement espérer peut-être une issue assez optimiste. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être ce virus va-t-il s'évanouir et on pourra réparer plus ou moins les dégâts qu'il a causés. Mais il faudrait évidemment qu'il ne dure pas trop longtemps et que les cassures opérées, notamment les cassures au niveau de la vie sociale et de la vie affective, ne durent pas trop longtemps, parce que on voit bien que beaucoup de gens vont finalement rester les uns vis-à-vis des autres dans la méfiance qu'ils ont dû déployer pendant cette période de confinement et de déconfinement. Sur ce plan d'ailleurs, on remarque que les Nordiques sont mieux armés que les Méditerranéens, puisque dans les pays du Nord, comme aux États-Unis, la règle, c'est la distance sociale. On s'incline, on ne s'embrasse pas, on se regarde avec un certain respect les uns des autres, puisque se toucher, c'est déjà un peu violer la l'intimité des gens. Et c'est plutôt pour nous que c'est dur. C'est pour nous, Méditerranéens, ceux qui habitent autour de du sud de l'Europe.
Oui.
C'est pour nous que c'est vraiment difficile parce que nous avions une gestuelle qui était plus emphatique et tout d'un coup elle doit devenir économe.
Et
on
là,
doit se garder de se rapprocher les uns des autres.
Est-ce que la société du mètre et demi est amenée à durer? En tout cas, c'est passionnant. Merci Pascal Bruckner d'avoir été notre invité.
Ben, merci à vous.
Bon week-end déconfiné. Natacha Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Puerari qui a préparé cette émission.